France Culture.
Tout de suite, on fait le point sur l'info. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et forcément, l'essentiel de ce journal sera consacré aux enseignements du premier tour des élections municipales. Un taux de participation historiquement bas. Un vote marqué également par la percée de la France insoumise, mais aussi des scores favorables au Rassemblement national, de sorte que cet entre-deux-tours d'ici dimanche prochain sera marqué par le casse-tête des possibles alliances et autant de dilemmes, lesquels seront aussi scrutés à l'aune de la course à l'Élysée dans un paysage politique encore très éclaté. Les incertitudes demeurent en réalité dans la quasi-totalité des grandes villes où des triangulaires ou des quadrangulaires sont envisageables. De tout cela, on parlera donc avec le service politique de la rédaction, de même que nos envoyés spéciaux et notre invité aujourd'hui, Romain Pasquier, directeur de la recherche à Sciences Po Rennes, responsable de la chaire territoire et mutation de l'action publique. Hier, les urnes ont donc rendu leur verdict avec déjà ce premier enseignement. Rarement des élections municipales auront été aussi importantes en France, ou du moins aussi symboliques, compte tenu du contexte politique et de ce qu'elles pourraient nous révéler des échéances à venir. Or, pas plus que les autres scrutins, en réalité, celui-ci n'aura permis d'empêcher la lente érosion observée d'élection en élection depuis maintenant plus de 40 ans. Quand bien même les Français restent généralement attachés à leur maire, une évidence s'impose. La fatigue démocratique touche désormais aussi l'échelon local. La participation au premier tour hier est estimée entre 56 et 58,5%, soit un plus bas historique, à l'exception du précédent scrutin en pleine pandémie de Covid-19. Alors pourquoi ? Élément de réponse avec Cécile de Carmasdoué.
Sans surprise, ce sont les jeunes les plus démobilisés, avec 60% d'abstention chez les 25-34 ans et 56% chez les 18-25 ans, là où 3 électeurs sur 4 de plus de 70 ans sont allés voter. En cause, le manque de confiance vis-à-vis des politiques ou alors des programmes jugés trop éloignés de leurs préoccupations. Sans surprise encore, cette abstention suit également une fracture socio-économique. Les 2/3 des électeurs gagnant moins que le SMIC se sont abstenus et ce phénomène s'inverse chez les électeurs qui gagnent plus de 3000 euros par mois. Voilà pour les tendances de fond, mais se rajoute cette année une autre cause de l'abstention. C'est la réforme du mode de scrutin qui, depuis la loi de mai 2025, a mis fin au panachage électoral en le remplaçant par une liste paritaire pour les petites communes de moins de 1000 habitants, comme c'était le cas déjà pour les plus grandes communes. Résultat, dans 25 500 communes, c'est-à-dire dans 67% des scrutins, il n'y avait qu'une seule liste qui a donc été élue au premier tour, mais souvent avec une très faible participation, tout simplement parce que les électeurs ont eu l'impression que c'était joué d'avance. Reste un dernier paramètre pour expliquer encore cette abstention, l'absence de possibilité d'exercer un vote sanction vis-à-vis du gouvernement, puisque peu de listes portaient des candidats de la majorité au pouvoir.
Alors cette lassitude des électeurs, voire cette défiance à l'égard de la politique constitue bien évidemment une mauvaise nouvelle pour la démocratie. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Romain Pasquier, directeur de la recherche à Sciences Po Rennes, responsable de la chaire territoire et mutation de l'action publique. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Ce sont donc les villes dans lesquelles on annonçait des scrutins serrés, des affrontements politiques cruciaux que les électeurs se sont le plus mobilisés, ou disons ils se sont le moins démobilisés. Est-ce que la progression de l'abstention traduit selon vous effectivement une fatigue démocratique, en particulier à l'endroit de la démocratie locale? Comment est-ce que vous percevez d'abord ce phénomène, et puis est-ce que l'on sait comment revigorer cette démocratie locale?
Bah écoutez, effectivement, hein, si on se reporte aux années 80, vous aviez 8 Français sur 10 qui se déplaçaient pour les élections municipales. Aujourd'hui, on est à peine 6 et souvent moins. Donc il y a bien une lente érosion, vous l'avez dit, de la participation politique. Il faut y voir effectivement une crise du politique, une crise de la confiance dans les institutions. Il faut y voir aussi sans doute, c'est un phénomène qui est particulièrement marqué en France, hein, aussi sans doute le fait que les électeurs ont bien conscience que le maire, bien qu'on l'aime bien, n'a plus beaucoup de pouvoir, hein, c'est aussi après 10 ans d'une forme de jupitérisme en politique, où finalement le caractère descendant du pouvoir a été très marqué. On se dit que à quoi bon décider au local si beaucoup des décisions sont en réalité prises bien plus haut.
Et comment remédier alors à cette érosion?
Je pense qu'il y a, il y a deux axes. Le premier axe serait sans doute de simplifier la vie politique locale, sans doute des conseils municipaux moins pléthoriques, peut-être aussi réfléchir au nombre de communes, revenir peut-être aussi sur cette réforme qui, là aussi, paraissait être la fausse bonne idée de standardiser de Paris à la moindre petite commune la façon de composer de manière paritaire les listes. Et puis on se rend compte que ce sont des obstacles dans les toutes petites communes pour constituer ces listes et que ça finit par encore plus d'abstention.
Et voilà donc pour ce premier décryptage. Merci Romain Pasquier, vous restez avec nous. Au lendemain donc de ce premier tour des municipales, un deuxième enseignement s'impose. Globalement, la fragmentation politique de la France se confirme, ou plutôt d'ailleurs sa recomposition, laquelle renoue au fond avec une forme de clivage traditionnel gauche-droite et des tendances qui se confirment par ailleurs dans chacun des deux camps. Une porosité grandissante entre la droite et l'extrême droite d'un côté, et puis des rivalités de plus en plus manifestes entre LFI et le PS de l'autre. Alors commençons peut-être par la gauche, puisque ce premier tour de scrutin l'a vu globalement se maintenir en tête dans les cinq plus grandes métropoles de l'Hexagone, Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux et Lille, avec d'ores et déjà une équation de taille, puisque malgré les polémiques, la France insoumise a donc souvent créé la sensation au point de se retrouver aujourd'hui en position d'arbitre. Or, on le sait, le parti à la rose entend lui toujours rompre définitivement avec le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Dès lors, comment résoudre à présent cette équation? Adrien Toffolet, bonjour.
Bonjour.
Envoyé spécial à Lille, où les négociations, en l'occurrence, s'annoncent tendues, donc en vue du second tour. Hier, le maire sortant socialiste Arnaud Deslandes est arrivé devant d'une très courte tête devant la candidate LFI, Lawaria Hadouche.
Oui, résultat surprise, puisque celui qui a manqué de peu de remporter la mairie de Lille en 2020, l'écologiste Stéphane Bally, est arrivé cette fois-ci troisième et tient donc la position de faiseur de roi. Dès hier, les insoumis ont poussé pour une alliance avec ce dernier. Stéphane Bailly a incarné depuis 6 ans l'opposition franche à la politique néfaste des socialistes, justifie la candidate LFI. En toute logique donc, une alliance contre le PS paraît une solution naturelle. Et ce matin, on a appris que des négociations avec l'équipe de Stéphane Bailly ont eu lieu toute la nuit et qu'elles vont se poursuivre toute la journée. Un accord est en bonne voie, annonçait LFI ce matin. On verrait alors une alliance inédite LFI écologiste à Lille. Et ce ne serait pas la seule. D'autres grandes villes sont concernées, notamment Besançon, où la maire sortante écologiste Anne Vigneault a été devancée hier par Ludovic Fagot, candidat Les Républicains. Dès ce matin, elle a annoncé une alliance avec la France Insoumise, arrivée troisième. En revanche, pour le Parti Socialiste, la question des alliances avec LFI est d'autant plus sensible qu'une partie des troupes socialistes et de ses alliés, François Hollande et Raphaël Glucksmann, l'ont répété depuis hier soir. Ils sont farouchement opposés à tout accord. La direction du PS avait balayé l'idée d'un accord national pour laisser les candidats décider localement. Et c'est précisément ce que l'on observe déjà. Sans surprise, le socialiste Emmanuel Grégoire à Paris a répété qu'il n'y aurait aucune alliance avec Sofia Chikirou face à Rachida Dati. À Marseille, malgré le risque de voir tomber la ville dans les bras de Franck Alizio du Rassemblement National, le maire socialiste Benoît Payan, au coude à coude avec lui, fait le pari du vote utile à gauche. Il a déposé sa liste en préfecture ce matin, fermant la porte à toute négociation avec l'insoumis Sébastien Delogu. Mais à Toulouse, un accord de gouvernance a déjà été signé cette nuit. Pour reprendre la ville à la droite, mairie pour l'insoumis François Picmal, arrivé deuxième, la métropole pour le socialiste François Briançon en troisième position. Et puis, les yeux sont tournés vers Nantes, où la socialiste Johanna Roland aurait bien besoin des voix de la liste LFI de William Ocamp pour empêcher la ville de basculer à droite. Un accord entre les insoumis et la numéro 2 du PS, la symbolique serait très forte.
Merci Adrien Toffolet en direct de Lille, et pardon pour cette liaison capricieuse. Alors dans la grande ville du Nord, les écologistes mènent donc des discussions parallèles avec les deux camps de gauche. C'est encore le cas à Paris et Marseille. Or si les Verts semblent plus ouverts aujourd'hui à des alliances locales, c'est sans doute en partie parce qu'à l'issue de ce premier tour, ils accusent un reflux certain, mais pas seulement, car si la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier, appelle effectivement un vote utile au second tour, c'est parce que pour elle, l'objectif est très clair, éliminer la droite et l'extrême droite. Romain Pasquier, je reviens vers vous. On insiste beaucoup depuis ce matin sur la percée de LFI qui vient jouer les arbitres et mettre le PS. Donc sous pression dans plusieurs grandes villes, malgré tout, le Parti Socialiste conserve encore une longueur d'avance dans de très nombreuses communes.
Oui, le socialisme municipal est ébranlé, mais il n'est pas mort. Il peut encore conserver nombre de grandes villes au lendemain du second tour. Pour cela, il va falloir qu'il compte soit sur des accords techniques, effectivement, avec LFI, soit sur un vote utile à gauche. Donc, il faut mobiliser, mais c'est vrai qu'il est fragilisé. Autant il avait l'habitude de passer des alliances avec les écologistes, il les a même parfois intégrés dans sa liste de premier tour. Autant avec LFI, c'est beaucoup plus compliqué. Ça dépend des configurations locales. Ça dépend aussi des relations interpersonnelles dans chaque ville.
Alors, on l'a dit, les têtes de liste ont donc jusqu'à demain pour décider si elles se maintiennent, fusionnent ou se désistent en vue du second tour. Et c'est en effet à gauche que la question des alliances s'annonce sans doute la plus épineuse, mais la question se pose également à droite, car à l'issue de ce premier tour, il apparaît clairement que le Rassemblement National s'est installé dans le paysage municipal avec ses alliés. Le parti anti-immigration est en tête dans plus de 60 communes, contre 11 seulement en 2020. Il s'est même imposé dès le premier tour dans 17 villes, dont 10 nouvelles. Et quand bien même l'extrême droite voit ses espoirs déçus dans des villes moyennes, elle sera présente au second tour dans 210 communes. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Même si on ne peut pas parler de déferlante, la marée monte partout ou presque. Le RN enregistre des scores en progression, à commencer, Stéphane, par Sébastien Conservé haut la main.
Oui, le Rassemblement National effectivement fait réélire ses maires sortants dès le premier tour à Perpignan, à Fréjus, à Beaucaire, à Hayange en Moselle, à Hénin-Beaumont et à Bruel, à Buissière dans le Pas-de-Calais. Les maires sortants Steve Briouat et Ludovic Pajot sont réélus avec près de 80% des voix. C'est un plébiscite. Et puis le RN conquiert 5 nouvelles villes du bassin minier, Arnes, Loison-sous-Lens, Drocourt, Marles-les-Mines et Oudin. Dans le sud-est, le député du Rassemblement National, Brian Masson, conquiert la ville de Cagnes-sur-Mer, une ville de 50 000 habitants. Le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella revendique 24 communes conquises dès le premier tour, une vraie progression par rapport à 2020, et il espère d'autres victoires au second tour, puisque ses candidats sont en tête dans une soixantaine de communes. C'est surtout, vous l'avez dit, dans ces places fortes historiques que le Rassemblement National enregistre une progression assez nette. Dans le Nord-Pas-de-Calais et dans le sud-est, les Alpes-Maritimes et le Var essentiellement, ou par exemple à Toulon, la députée Laure Lavalette arrive assez largement en tête. Ailleurs, la progression du RN est plus limitée et plus modeste, mais elle est réelle. En Gironde, des maires Rassemblement National sont élus dans 2 communes, La Ruscade et Saint-Savin, des bourgades de moins de 3500 habitants, et 2 autres communes pourraient tomber dans une semaine. Le RN arrive en tête à La Flèche dans la Sarthe, ainsi qu'à Ozoir-la-Ferrière en Seine-et-Marne, 2 villes moyennes de 15 et 20 000 habitants. En Loire-Atlantique, à Donges, le candidat RN est à 25%. À Saint-Nazaire, le Rassemblement National devrait faire son entrée pour la première fois au Conseil municipal. Et c'est pareil en Bretagne, où les candidats RN se qualifient au second tour à Quimper, Lannion, Saint-Malo, Lorient, Brest. Dans tous ces endroits, les nouveaux élus du Rassemblement National sont susceptibles de se transformer en grands électeurs et de voter aux élections sénatoriales qui se tiendront en septembre prochain.
Merci Stéphane Robert. Alors pour le RN, le plus difficile commence puisque, faute de réserve de voix à l'extrême droite, le parti ne peut compter aujourd'hui que sur 2 leviers. D'une part, un sursaut de mobilisation de ses électeurs et puis de l'autre, de nouvelles alliances. Ce matin, son vice-président Sébastien Chenu appelle les électeurs LR en vote utile au second tour, ce qui ne sera pas toujours facile. D'autant que parfois aussi les deux camps s'affrontent pour la victoire. Illustration à Nice, là-bas Éric Ciotti, le candidat de l'UDR allié au RN, devance de 13 points le maire sortant, les Républicains Christian Estrosi. C'est un reportage signé Hélène Tarzian.
Comme un vent d'euphorie au sein des troupes d'Éric Ciotti, le candidat UDR allié au RN compte bien transformer l'essai.
Ce que nous avons fait est exceptionnel. Osez le changement, n'ayez pas peur de ce changement.
Éric Ciotti veut tourner la page de 3 mandats de Christian Estrosi, devenu son ennemi juré, montrer aussi que sa stratégie est la bonne. Un de ses colistiers en est convaincu.
C'est un sentiment d'aboutissement. Ça fait des mois qu'on se bat pour faire une alliance, une union des droites, et le Niçois a envie du changement.
Avec une telle avance, les ciottistes sont optimistes, surtout si la candidate de la gauche se maintient comme prévu dans la triangulaire qui s'annonce. En difficulté, Christian Estrosi appelle à un barrage républicain.
Je vous invite à ce grand rassemblement de résistance qui, au second tour, nous permettra de remporter cette victoire.
Jean-Pierre, un de ses soutiens, refuse de baisser les bras, mais il admet que le combat est rude.
C'est une bataille, mais là, elle est un tout petit peu plus dure. C'est pas un garçon qui va se décourager, Christian Estrosi.
Le maire sortant appelle les forces politiques de gauche, hors LFI, à tenir une réunion commune pour empêcher une victoire de l'extrême droite.
Un reportage à Nice, signé Hélène Tarzian. Romain Pasquier, entre les réélections, donc dès le premier tour, autour de Louis Alliot à Perpignan, Robert Ménard à Béziers, David Rachline à Fréjus, mais aussi les scores importants de Franck Alizio à Marseille ou de Laure Lavalette à Toulon. Est-ce que l'on assiste, selon vous, à la disparition de la droite républicaine dans le sud-est de la France, qui constituait pourtant l'un de ses viviers historiques ?
Oui, on assiste à un remplacement effectivement de la droite républicaine dans ses bastions historiques du pourtour méditerranéen. C'est accéléré effectivement par ce premier tour des élections municipales. On assiste aussi à un remplacement du socialisme et du communisme municipal, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, par le Rassemblement national.
Depuis le début de ce journal, donc on a beaucoup parlé des clivages politiques entre les différents camps, mais il en existe un autre, peut-être même plus fondamental encore, entre d'une part donc des métropoles qui obéissent de plus en plus à des logiques politiques nationales, puis de l'autre des communes périurbaines ou rurales pour lesquelles une lecture partisane est souvent plus compliquée. Est-ce que ce découplage correspond au creusement d'un clivage dans la façon même aujourd'hui de conduire les politiques publiques ?
Oui, je le crois. On a des métropoles effectivement qui sont très politisées, très polarisées, qui correspondent plus ou moins à la vie politique nationale telle qu'on la voit à l'Assemblée nationale. Et puis toutes les villes en dessous de 50 000 habitants, on voit que les étiquettes sont plus larges, divers droite, divers centre, divers gauche. D'ailleurs, ça a mobilisé un peu moins. Et les priorités ne sont pas les mêmes. C'est pas sécurité forcément. C'est plutôt l'accessibilité des services publics, la question des déserts médicaux. Donc on va avoir, pour les élections présidentielles, à mon avis, de grandes surprises. On aura beaucoup plus de participation. La participation progressera de 20 ou 25 points. Et donc on a un risque que ce clivage bénéficie à certaines formations politiques, et je pense notamment au Rassemblement national.
C'est bien compris. Merci Romain Pasquier, directeur de la recherche à Sciences Po Rennes, responsable de la chaire Territoire et Mutation de l'Action publique, d'avoir répondu à notre invitation ce midi pour nous aider à décrypter donc les résultats de ce premier tour des municipales. Et merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Midi et 46 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Dans le reste de l'actualité, à 71 ans, il est le prévenu le plus célèbre de France, déjà condamné définitivement dans les affaires Bismuth et Big Malion. Nicolas Sarkozy affrontera cet après-midi probablement l'une des échéances judiciaire les plus décisives de sa vie, avec l'ouverture de son procès en appel dans l'affaire du financement libyen de sa campagne victorieuse de 2007. L'ex-chef d'État est accusé d'avoir perçu des fonds secrets du dictateur Kadhafi, ce qui lui a valu une condamnation en première instance pour association de malfaiteurs et une incarcération inédite de 3 semaines à l'automne dernier. Les précisions de Florence Turme.
Ce second procès va entièrement rebattre les cartes car 10 personnes sur les 11 condamnées mais aussi le parquet ont fait appel de la décision rendue. Nicolas Sarkozy et 9 autres prévenus sont donc à nouveau présumés innocents dans cette affaire où ils restent visés par de très lourdes qualifications. Corruption passive, recel de détournement de fonds publics, financement illégal de campagne électorale et association de malfaiteurs. En première instance, l'ancien président avait été relaxé de tous ses chefs de poursuite à l'exception de l'association de malfaiteurs. Les juges avaient estimé que Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, était coupable d'avoir sciemment laissé ses collaborateurs, Claude Guéant et Brice Hortefeux, démarcher la Libye de Kadhafi afin de solliciter un financement occulte de sa campagne présidentielle de 2007. Le tribunal avait souligné l'exceptionnelle gravité des faits et ainsi justifié une peine de prison ferme avec exécution provisoire, décision motivée par la haine pour l'ancien président qui avait aussi dénoncé une atteinte à l'état de droit, ce qui avait amené le patron du parquet national financier et le président du tribunal judiciaire de Paris à réagir, d'autant que des menaces avaient aussi visé la présidente du tribunal correctionnel. Nicolas Sarkozy a toujours clamé son innocence dans le dossier libyen. Sa défense compte encore plaider sa relaxe. En revanche, si sa culpabilité était à nouveau retenue, se poserait aussi à nouveau la question de la peine et d'une nouvelle condamnation possible à de la prison ferme.
Je précise que le procès en appel va se dérouler à raison de 3 jours par semaine jusqu'au 3 juin prochain et l'arrêt de la cour devrait être rendu le 30 novembre. Déjà fragilisé par l'effondrement de l'ordre international comme les politiques chaotiques de Donald Trump, l'économie mondiale continue de vaciller 2 semaines après les premières frappes sur l'Iran. Le bilan de l'opération israélo-américaine reste désastreux avec des conséquences dont on ne saisira d'ailleurs sans doute la véritable ampleur que dans plusieurs mois seulement. En attendant, le président américain continue de faire pression sur ses alliés mais aussi la Chine pour sécuriser le trafic dans le détroit d'Ormuz. De leur côté, les ministres de l'énergie des 27 se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles afin de chercher les leviers possibles pour contenir au mieux les coûts de l'énergie. Fresque politique, le film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre, sorte de miroir grossissant de l'Amérique d'aujourd'hui et de ses dérives extrémistes, qu'il s'agisse de sa politique brutale anti-immigrée ou de la montée du suprémacisme blanc assumé a triomphé hier soir aux Oscars avec 6 trophées. Enfin, eux retiennent encore leur souffle, ce sont les grands chefs. Le guide Michelin dévoilera cet après-midi ses nouvelles étoiles et son palmarès 2026 des meilleures tables de France. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec un ciel souvent menaçant au nord, plus calme au sud. Quant aux températures, elles seront comprises entre 9 et 17 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Alison Vicrobeck et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.